BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'heure H. Beaucoup d'actualités dans cette heure H. D'abord, qui pour battre Trump au lendemain de ce Super Tuesday? On se voit que les jeux sont pas du tout encore faits. On va en parler dans un instant avec quelqu'un qui, du reste, avait suivi la campagne de Bernie Sanders. Clément Perrault, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous nous raconterez tout, comment un jeune Frenchie a débarqué dans la campagne de Bernie Sanders et puis surtout quelle interprétation vous faites du retour, du comeback de Joe Biden. Assez incroyable. Je recevrai Olivier Klein, qui est le patron de la Bred. Justement, il publie des résultats assez formidables pour 2019, mais surtout, je lui poserai la question, qu'est-ce qu'il fait pour soutenir les entreprises, les PME, qui se disent très inquiètes par rapport à leur activité et le coronavirus. Et puis ensuite, je recevrai un entrepreneur, un serial killer, Alexandre Mars. Il publie Ose, tout ce qu'il faut faire pour être entrepreneur. Il y a pas mal, vous verrez, sur le moment, j'étais un peu sceptique, en fait, il y a pas mal de points intéressants. Je l'interrogerai notamment sur les femmes et puis aussi sur ces nouvelles start-up. Mais pour l'instant, justement, place à l'actu, toute l'actu, c'est avec Aurélie Planex. Bonjour Aurélie.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Le coronavirus enlèvera plus de 0,1 point à la croissance française, c'est la déclaration de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie était ce matin l'invité de BFM Business. Il estime que le gouvernement français et la zone euro doivent se tenir prêts à intervenir sur le plan budgétaire pour soutenir les entreprises, car certaines, en France en tout cas, ont déjà commencé à mettre en place des mesures de chômage partiel en sollicitant l'aide de l'État. Bruno Le Maire.
L'État est prêt à soutenir les entreprises, il l'a déjà fait. Je peux vous dire qu'il y a 165 entreprises qui ont déjà demandé du chômage partiel. Ça représente une dépense avec Muriel Pénicaud de 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros. Et nous verrons si le dispositif monte en puissance dans les jours et les semaines qui viennent. Nous répondrons présents, là aussi, sur ce dispositif.
Bruno Le Maire qui était donc l'invité ce matin d'Edwige Chevrillon. En tout cas, l'épidémie ne semble pas perturber JD.com. Le géant chinois du e-commerce prévoit un bond d'au moins 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. JD.com fait état d'un boom des livraisons à domicile et résiste mieux que ses concurrents chinois en raison de la solidité de ses structures logistiques. Aux États-Unis, le Super Tuesday confirme le retour de Joe Biden dans la course à la candidature démocrate pour la présidentielle. L'ancien vice-président remporte les primaires de 9 États, mais Bernie Sanders s'adjuge la Californie. De son côté, Michael Bloomberg semble hors course. Il doit décider dans la journée de la suite à donner à sa candidature. Une opération majeure pour l'avenir de la Poste. La Banque Postale et CNP Assurance fusionnent. Le mariage sera officiellement scellé ce soir lors de plusieurs conseils d'administration. Il donnera naissance au 11e groupe bancaire de la zone euro. Grâce à un mécano financier complexe, l'opération permettra à la Poste de récupérer un peu plus de 7 milliards d'euros de fonds propres et de doubler la taille de la Banque Postale. C'est officiel, Covéa rachète le réassureur Partneret pour 9 milliards de dollars. La maison mère de MAF, MMA et GMF est parvenue un accord avec la famille Agnelli, actionnaire principal de Partneret. Et puis une levée de fonds importante dans la French Tech aujourd'hui. Colony lève 30 millions d'euros. Cette start-up est spécialisée dans le co-living, l'habitat partagé. Par ailleurs, le fonds LBO France va apporter à Colony un financement de 150 millions d'euros pour lui permettre d'acquérir de nouveaux biens immobiliers. On termine comme chaque jour avec un coup d'œil sur les marchés. Le CAC 40 est en nette progression, plus 1,3%, 5466 points. L'euro-dollar 1,11.
Merci beaucoup Aurélie. Bien sûr, on vous retrouve à 12h30 pour les nouveaux développements de l'actualité dans un instant. Maquis pour battre Trump. On en parle avec Clément Perrault.
BFM Business, l'heure H. La question du jour.
Clément Perrault, merci d'être avec nous. Vous êtes un Frenchie, jeune Frenchie, qui avait été dans la campagne de Bernie Sanders, je le disais. Là, ce Super Tuesday a un peu rebattu les cartes avec ce comeback incroyable de vous êtes aussi de Joe Biden, l'ancien vice-président américain. Et puis Bernie Sanders, quand même, qui se maintient. Juste une question, parce que vous avez publié Democracies, avec un Z, un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. C'est publié aux éditions Max Milo, qui mal y pense. Vous voyez, c'est important de le signaler. Pourquoi il y a autant de Frenchies dans l'entourage de Bernie Sanders? Je recevais l'économiste Gabriel Zucman, qui a fait un peu le programme assez à gauche de Bernie Sanders. Vous, c'était il y a 5 ans, vous deviez être encore plus jeune. Pourquoi il y a autant de Français?
Gabriel Zucman a eu un rôle beaucoup plus stratégique hein, que je n'ai pu l'avoir moi en 2016, mais la curiosité qui m'a amené à l'époque est surtout le fruit d'un hasard. Je travaillais pour une ONG climat en 2015 durant la COP21 et après la COP21, j'ai un ami dans cette ONG-là qui travaillait pour
d'accord,
Obama.
D'accord, mais c'est donc le fait d'être français, travailler pour un candidat américain, c'est pas un handicap.
Ah oui, non,
c'est drôle.
Alors,
voilà,
vous avez raison.
Anecdotique, mais voilà, c'était...
C'est pas un handicap, parce que déjà, quand on fait du porte-à-porte et qu'on mobilise les gens, ça les enthousiasme de voir qu'on est intéressé par leur démocratie. Et si les Français s'intéressent à ce point aux États-Unis, c'est parce qu'on n'a qu'une seule planète et que si les États-Unis ne changent pas, le dérèglement climatique nous frappera tous.
Bernie Sanders, c'est vraiment c'est l'homme de gauche et celui qui est plus à gauche sur l'échelle démocrate. Et c'est peut-être pour ça, du reste, qu'on a vu Buttigieg démissionner. On va y revenir, bien sûr. Il est assez à gauche pour un démocrate américain.
Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans le fait d'être à gauche chez Bernie Sanders se découvre par trois aspects. Il y a son programme qui, finalement, réaligne sur les autres pays de l'OCDE, notamment en termes de santé et de salaire minimum. Il y a sa stratégie, qui est une stratégie d'insurrection populaire par les urnes. Et il y a sa philosophie politique, le démocratique socialisme, qui souhaite remettre aux mains des travailleurs, par une possession des travailleurs, les outils de production. On est du coup très loin du soviétisme, mais beaucoup plus radical que les SOSDEM.
Oui, ça c'est sûr. Donc, ce qu'il veut, effectivement, Gabriel Zucman est venu ici nous l'expliquer, qu'il veut rétablir un peu forme d'ISF, en tous les cas, et plus d'égalité dans les revenus. Alors, ce Super Tuesday, donc très très important, hein, c'est vraiment assez clé dans la campagne démocratique, la campagne électorale, parce que c'est là où vous avez 40% des délégués qui sont élus.
33.
Ah, moi j'ai 40%, mais c'est pour ça.
14 États. Ouais. On est aujourd'hui en cumulé à 38%, c'est pour ça que vous avez ce chiffre-là. Mais hier, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est un tiers des délégués qui ont été alloués. C'est un moment charnière, c'est un moment charnière médiatiquement. Et c'est un moment charnière dans la dynamique de l'élection. On l'a vu, les abandons de Amy Klobuchar, de Pete Buttigieg, les ralliements qui font aujourd'hui, qui sont à la base du comeback de Joe Biden, ont été décidés à 48 heures de cette date fatidique qui sinon faisait exploser les voix des centristes et du coup donner l'avantage à Bernie Sanders. Ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie centriste a été très très intelligente dans une urgence pourtant qui aurait pu mener à la précipitation désordonnée.
Oui, ça a marché parce qu'il faut dire que Bernie Sanders il fait peur avec ce programme donc très à gauche entre guillemets socialiste, ce qui là-bas est un gros mot et qui pour nous est assez il a rien d'ultra gauche hein, Bernie
Alors,
Sanders.
Il fait peur à l'establishment médiatique, économique et politique. Il fait pas peur aux citoyens. Vous parliez tout à l'heure de l'ISF, c'est contre-intuitif, mais les sondages le montre, sondage après sondage, l'ISF que propose Bernie Sanders est majoritaire dans l'opinion publique américaine.
En revanche, par exemple, lui, il lui manque l'électorat noir.
Alors, il lui manque l'électorat noir âgé.
Et populaire.
Chez les moins de 35 ans, Bernie Sanders est ultra-majoritaire partout, même chez les minorités noires, et il est très majoritaire chez les latinos. Donc, on a là, en fait, une illustration de l'inertie d'une partie de l'électorat qui a déjà voté Obama-Biden deux fois et qui, du coup, vote Biden en partie par habitude. Et en plus...
On voit quand même, vous avez un petit prisme Bernie Sanders dans votre analyse.
Il y a un élément qui est intéressant, c'est la manière dont ces gens s'informent. Les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux, avec du coup ils sont beaucoup plus sensibles à la viralité qui est au cœur de la dynamique de Bernie Sanders. Ça explique pourquoi il est populaire chez les jeunes, même chez les jeunes noirs, si on veut être dans une lecture racisée de l'électorat, alors que l'électorat plus âgé et notamment l'électorat noir âgé s'informe sur les chaînes d'info qui elles ont, si moi j'ai un billet pour Bernie Sanders, en tout cas eux un raz-de-marée pour Joe Biden.
Et qu'appelez-vous la viralité de Bernie Sanders? Il est très actif sur les réseaux sociaux.
Exactement, c'est un peu contre-intuitif pour un bonhomme de 78 ans.
Ouais, mais Bernie Sanders, c'est un concours de beauté, si j'ose dire. Oui.
Bernie Sanders a compris, en tout cas son équipe rapprochée, sait comment rendre ce candidat visible sur les réseaux sociaux et encourager ses supporters à diffuser ses contenus, que ce soit ses vidéos ou même la manière dont il interroge les gens. Si vous suivez le coup de Bernie Sanders en ce moment sur Twitter, ce qui est intéressant, c'est qu'il demande aux gens: si on mettait en place cette mesure du programme, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et là, il y a des dizaines de milliers de personnes qui répondent et ça permet d'incarner son programme et du coup de le rendre concret et visible.
Est-ce que vous avez le sentiment un peu, du reste, qui s'était passé pour Donald Trump, où il y avait les Républicains qui étaient vent debout contre Donald Trump? C'est un petit peu changé pour cette élection, mais je parle pour sa première élection. que là, Bernie Sanders, il est un peu la cible du Parti démocrate, non ? En vous écoutant, c'est un peu le sentiment que j'ai.
Alors, ça s'explique à deux choses. Donc, le comparatif avec 2016 est juste, sauf qu'on voit que l'establishment démocrate est beaucoup mieux organisé, notamment parce qu'il y a un acteur dans l'ombre, Barack Obama, qui est beaucoup plus fédérateur que quiconque en 2016 du côté républicain. Donc ça, c'est un point très important.
Ils jouent encore un rôle important, notamment vis-à-vis de Joe Biden.
Obama a fait la hotline pour Joe Biden pour faire que les autres abandonnent durant le week-end qu'on vient de passer. L'autre élément, c'est qu'en fait, Bernie Sanders, pour le moment, propose des mesures pour les Américains, mais il n'a pas proposé une porte de sortie honorable pour l'establishment démocrate. Quand je dis l'establishment démocrate, c'est ces élus qui sont financés aujourd'hui par des méthodes de financement de campagne où on fait appel à des lobbies, notamment le lobby pharmaceutique. Si Bernie Sanders ne leur propose pas une solution pour sortir la tête haute de cette élection, ils seront vent debout contre lui, ils feront front derrière Joe Biden, et c'est peut-être aujourd'hui la grande faiblesse de Bernie Sanders.
Alors lorsqu'on regarde, effectivement, vous l'avez dit, Buttigieg, donc, était celui qui avait gagné le premier tour des primaires, alors qu'il était c'était beaucoup plus petit, évidemment. Enfin, c'était quand même la révélation, on peut dire. Il a annulé, enfin, il a jeté l'éponge il y a deux jours, hein, donc pour soutenir Joe Biden. On a vu que ça a marché quand même, cette stratégie, ce que vous disiez.
C'est
ça.
Impressionnant.
Ouais, ouais. Alors, c'est parce qu'ils avaient peur justement que la partie centriste, l'électorat centriste, s'éparpille.
Il y a deux choses qui sont impressionnantes, c'est la rapidité de ce retournement. Anecdote amusante, hein. Pete Buttigieg a pris sa décision dans l'avion qui l'a amené au Texas, et du coup il a changé de route, et il y a une vidéo sur internet qui a été notamment partagée par la correspondante Laurence Saïm, où on voit Pete Buttigieg qui un peu fait le steward et annonce aux journalistes, en fait, on retourne en Indiana.
D'accord. Bon,
donc ça c'est pour l'anecdote, ouais. Mais ça montre les basculements de situation ultra rapides de cette élection. L'autre élément qui est surprenant, vous avez raison, c'est que l'électorat de Amy Klobuchar et Pete Buttigieg ont vanté quasiment comme un seul homme pour Joe Biden, alors que jusqu'à maintenant, on pensait qu'il y avait une idéologisation plus faible de l'électorat et une plus grande volatilité. Manifestement, ça ne s'est pas vérifié durant le Super Tuesday.
Il y a aussi deux grands perdants dans ce Super Tuesday. C'est Elizabeth Warren, qui a perdu dans le Massachusetts. Justement, c'est Joe Biden.
Troisième place.
Incroyable, non ?
Plein de fois quatrième dans de nombreux États. C'est difficile de savoir comment elle va continuer. Ce qui est le plus probable, c'est que ses petits donateurs ne vont plus la suivre. Elle n'a pas vraiment d'espoir de victoire. Et que plus elle va continuer, plus elle va être perçue comme un facteur de division des voix progressistes. Et ça va être difficile pour elle de tenir.
Ouais. Et puis alors, l'autre grand perdant, Michael Bloomberg, c'est incroyable. Donc ce multimilliardaire qui a dépensé 500 millions quand même pour sa campagne électorale. Alors il s'est pris une énorme claque. Comment vous expliquez ça ? Les débats, il a pas percé. C'est clair, il était pas bon quoi.
En fait, il y a, en tout cas moi j'en identifie cinq grands éléments, qui font la visibilité et la popularité d'un candidat. Il y a son programme, il y a sa manière de répondre en débat et son charisme, il y a son argent, il y a sa base militante et il y a la manière de diffuser ses pubs, le message qui passe. Ce qui est intéressant, c'est que Bloomberg a tout misé sur l'argent et on peut finalement être rassuré pour l'esprit de la démocratie américaine, ça n'a pas suffi. Néanmoins, l'argent les endorsements, et c'est le cinquième point. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que Bloomberg a de bonnes chances d'abandonner, en tout cas s'il abandonne et qu'il soutient Joe Biden, il va ramener son argent aux endorsements de Biden, qui a un narratif de retour à la normale. Et là, effectivement, c'est le combo gagnant.
Oui, d'accord. Parce que l'argent, c'est pas forcément. Alors, c'est un handicap du côté démocrate, parce que du côté républicain, on a vu que Donald Trump.
Pour payer des pubs.
Ah oui, c'est ça.
C'était pas très clair, mais en gros, l'argent permet d'avoir une visibilité médiatique sans forcément être invité en plateau ou sans même être en débat, qui inonde. C'est impressionnant. Je crois que c'est 60% des pubs Facebook politiques sur Internet qui étaient payées par Bloomberg ces dernières semaines.
60%,
c'est une hégémonie stupéfiante. On ne pouvait pas ouvrir YouTube aux États-Unis avec une adresse IP américaine. On ne pouvait pas ouvrir YouTube sans tomber sur une pub de Michael Bloomberg. On est sur un
point. Mais comme quoi, les réseaux sociaux,
Ça ne suffit pas, mais au passage, cette indécence, on va dire, dans le poids de l'argent, pose problème. Et d'ailleurs, Bernie Sanders est un de ceux qui propose un seuil maximal de dépenses dans le financement des campagnes. C'est maintenant une proposition qui est majoritaire dans l'électorat démocrate. Mais en plus de ça, lui, il propose un financement public.
J'ai l'impression d'entendre ça depuis assez longtemps. Et puis, chaque fois, c'est une forme de surenchère qui est complètement folle. En France, ça nous paraîtrait tellement disproportionné que...
Un chiffre impressionnant. Après le dixième débat, Bernie Sanders a levé en une nuit 10% de l'ensemble des dépenses qui sont autorisées pour une campagne présidentielle française. En une nuit, il a levé 2,7 millions de dollars. En France, on ne peut pas dépenser plus que, je crois, 27 millions d'euros.
Vous me direz, les États-Unis, c'est grand comme 52 fois la France.
Évidemment.
Quasiment, quoi.
Quoi qu'il en soit, l'importance, c'est qu'on puisse jouer à jeux égales. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui est important dans le livre, c'est que je décortique les éléments qui font le dysfonctionnement de la démocratie américaine. La démocratie américaine, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est corrompue, pas au sens où l'argent corrompt, mais au sens d'un fichier corrompu où, en fait, on aurait laissé cette démocratie se dégrader et aujourd'hui, elle est dysfonctionnelle.
Oui, on va quand même dire pour Bernie Sanders un point très important, c'est qu'il a remporté la Californie, qui est quand même un des plus gros États pourvoyeurs de délégués. Alors c'est amusant parce que vous m'avez apporté une grande carte, alors je la montre pour ceux qui sont qui nous regardent à la télévision, mais on voit déjà qu'il faut, il y a tout le nombre de délégués, tous les États, tous les candidats démocrates, mais là vous pouvez en barrer beaucoup, il ne reste plus que deux finalement.
C'est un jeu de massacre.
Oui, c'est un jeu de massacre. Hein.
C'est une carte violence, qui sera disponible sur le compte de Democracies sur Twitter cet après-midi.
Ah ben voilà.
Et qui permet en fait de suivre et de comprendre que rien n'est joué, au sens où aujourd'hui il y a encore 62% des délégués à allouer. On est à plus de 120 jours de la convention à Milwaukee, à plus de 240 jours de l'élection du 3 novembre. Et surtout, il y a encore, je crois, plus de 40 scrutins qui sont devant nous.
Un dernier mot sur les Républicains, Clément Perrault. Il écrase tout, il n'y a pas de primaire du côté américain.
Il n'y a pas de primaire, alors en fait, de fait, il y en a une. Petits candidats qui concourent, mais effectivement, tant dans son hégémonie dans le parti que dans la visibilité médiatique, cette primaire est totalement passée à l'as.
Bernie Sanders est le meilleur candidat pour affronter, ça sera un affrontement, Donald Trump, vous pensez?
Je n'ai pas de conviction sur le fait que Bernie Sanders soit le meilleur que Joe Biden la veille du 3 novembre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Joe Biden a des faiblesses structurelles qu'il va devoir corriger. Joe Biden, finalement, d'une manière tout à fait paradoxale et contre-intuitive, a eu la chance de passer un mois un peu sous le radar parce qu'il était donné pour mort.
Ouais.
Sauf que cette victoire actuelle est une victoire grâce à une quantité de ralliements où l'establishment démocrate a décidé de faire front. Mais maintenant, du coup, Joe Biden va devoir va devoir se justifier sur ses mensonges à répétition, sur son historique face aux droits civiques. Et le problème, c'est que Donald Trump va le présenter comme sénile parce que Joe Biden a l'habitude de gaffer, il a souvent des confusions dans son discours et ça risque de lui porter.
Remarquez, Donald Trump, de temps en temps, c'est plus que des confusions.
Malheureusement, l'électorat de Donald Trump est moins sensible à ça.
Absolument.
Que l'électorat démocrate.
Voilà, je pense que vous avez la clé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Clément Perrault. Donc, Democracies, c'est un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders et on a compris que vous connaissez bien tous les mécanismes, justement. Merci beaucoup. Dans un instant, on revient à Paris, en Ile-de-France. Je reçois un banquier, Olivier Klein, qui est directeur général de la BRED. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Olivier Klein, directeur général de la BRED. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La BRED, on va le rappeler, c'est la petite banque qui monte, j'ai envie de dire, au sein de BPCE. Et vous êtes essentiellement Île-de-France, Paris, et aussi dans l'Asie du Sud-Est.
Asie du Sud-Est, on est donc dans le Pacifique, dans l'Est de la Corne de l'Afrique. Et puis, dans les DOM, on est très important dans les DOM, et donc en Normandie. Voilà.
Vous avez sorti des résultats très bons, il faut le reconnaître, très bons pour 2019. Et alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est de dire, donc, les prêts aux entreprises, ça a marché, prêts à l'immobilier, évidemment. Mais surtout, c'est que vous avez ouvert des agences, et vous croyez dans les agences, vous ne croyez pas dans la banque à distance. Vous dites, nous, on est la banque sans distance, donc c'est très intéressant. Mais quand même, l'actualité nous a un peu rattrapé, Olivier Klein, avec le coronavirus, les mesures de soutien pour les entreprises. Je recevais ce matin Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Hier, Nicolas Dufourc, le directeur général de BPI, on voit qu'il y a un besoin de soutien de la part des entreprises. Vous ressentez comment vos entreprises clientes, parce que vous en avez beaucoup, bien sûr?
Oui, on a beaucoup d'entreprises clientes en France, aussi à l'étranger, mais beaucoup en France. L'inquiétude monte, c'est évident. Et puis ça dépend ensuite des secteurs, bien évidemment. Le secteur le plus touché en France, c'est le tourisme. Clairement, la restauration, l'hôtellerie, les compagnies d'aviation.
Mais est-ce que vous avez déjà eu, je ne sais pas, une remontée de dossier d'entreprise qui vous dit ben là, ça y est, on ne peut plus. D'abord, on n'a plus d'approvisionnement, on a 20, 30% d'annulation, faites-moi un crédit. Est-ce que vous n'êtes pas encore?
Et je pense que ça va venir relativement rapidement, ouais. Parce qu'effectivement, ce qu'on entend, c'est que dans certains secteurs, on a cela. On n'a pas encore de demande de rallongement de crédit. Évidemment, ce seront des choses que l'on fera, parce que quand une entreprise a des difficultés transitoire, mais il faut l'accompagner le temps que les choses se terminent et reprennent. Mais c'est bien que les pouvoirs publics soient en prévention, c'est même indispensable, parce que dans certains cas de figure, il vaudra mieux avoir de type garantie sur crédit proposée aux banques pour que les crédits soient bien faits ou même augmentés temporairement, plutôt que de constater a posteriori qu'on a des difficultés, oui. Qu'il y a des entreprises qui vont mal.
Oui, oui, c'est ce que disait vraiment Bruno Le Maire ce matin, c'est de dire que ce n'est pas des vastes plans. Là, on est presque en train de surveiller entreprise par entreprise. Alors, bien sûr, à Bercy, ils ne peuvent pas le faire, mais il y a une garantie globale et pour vous, c'est important.
Important.
Enquête quand même qui était menée ce matin par la CPME qui montre qu'il y a 59%, donc 60% des PME qui se disent inquiètes par rapport à la réactivité et 66% donc compte beaucoup sur les mesures de soutien. Donc vous, en tant que banquier des entreprises, vous dites
banco. En ce moment qu'il y a beaucoup de gens inquiets, encore une fois, on n'a pas encore de demande significative de rallongement de crédit, d'augmentation, etc. Mais on se prépare et on a besoin de ces mesures dont vous parlez. Je pense que si on se prépare bien, on devrait pouvoir passer ça raisonnablement.
Alors, pourquoi ? Alors, c'est un climat particulier pour les banques, hein, parfois difficile. Ici, on a vu défiler le président de la Fédération bancaire française, européenne, qui nous disent tous le climat actuel avec les taux très bas, voilà. C'est quand même difficile, même compliqué, voire dangereux. Vous nous dites, au contraire, c'est très bon. Là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, Olivier Klein.
Oui, avec plaisir, je vais essayer d'expliquer. Les taux d'intérêt, c'est très difficile à vivre pour les banques et tout le secteur financier, pas que les banques, toute l'industrie financière. C'est vrai pour les assureurs, c'est vrai pour les fonds de placement, etc. Pour les banques, ça écrase le taux la différence entre le taux auquel elles prêtent pour faire des crédits et le taux auquel elles empruntent l'argent auprès des clients. Donc, ces taux écrasés vers zéro, ça complique singulièrement la marge nette d'intérêt, se réduit. Il y a des banques qui ont beaucoup de difficultés avec cela, nous aussi. Après, il y a des façons de réagir à cela. Et puis, il y a un deuxième sujet, je vais revenir évidemment sur le premier. Il y a un deuxième sujet qui a beaucoup préoccupé les banques, qui est celui des fintechs, ou celui des GAFA, ou celui des néobanques. C'est-à-dire, au fond, de la rupture technologique, des nouvelles technologies. Ça, je pense que c'est une chance pour les banques. En réalité, cette rupture technologique est une chance pour les banques, parce qu'elle nous permet d'apporter encore un service au quotidien pour la partie de la banque qui consiste à faire les virements, on reçoit l'argent sur les comptes, etc. Ça nous permet de faciliter la vie de nos clients encore bien mieux, sans qu'ils aient à se déplacer dans les agences. Et ça nous permet de libérer du temps pour faire du conseil à valeur ajoutée, ce qui est ce qu'ils attendent. Donc, investir beaucoup dans le digital, pour nous, c'est excellent, parce que ça fait ces deux choses à la fois. On améliore la satisfaction du client, on lui facilite sa vie, et en même temps, on libère du temps à nos conseillers pour qu'ils travaillent beaucoup plus sur les projets de vie, les projets d'entreprise, en apportant de la valeur ajoutée aux clients. Et on se sert aussi du digital, d'ailleurs, pour améliorer la qualité du conseil, bien sûr.
Oui, mais alors c'est là où il y a une divergence, parce que vous dites que vous avez beaucoup investi sur la formation,
oui.
Et donc je disais sur trois, quatre ouvertures d'agence, mais par rapport au mouvement actuel, c'est beaucoup. Parce que,
c'est une tendance inverse.
C'est une tendance à c'est inverse, notamment au sein de BPC. Comment est-ce que c'est pas vous qui avez raison ?
Et je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, les chiffres sur plusieurs années montrent qu'on s'est bien différencié. C'est vrai.
Alors, vous êtes beaucoup plus petit, bien sûr, que les grands réseaux.
Nos résultats sont meilleurs pour l'instant. Alors, le groupe BPCE, dans son ensemble, se débrouille bien. Hein. Dans la banque de taille, notamment, puisque c'est ça dont on parle, il se débrouille très bien. Mais on fait la différence par rapport à d'autres enseignes, aussi à la Bred. C'est parce qu'on investit précisément sur le digital, mais aussi parce qu'on investit sur l'humain. Et je pense effectivement que la demande de banque ne baisse pas. Si on réduit le nombre d'agences, si on réduit le nombre de conseillers, ça n'a de sens que si la demande de banque baisse. Comme si je suis en ce moment dans l'automobile, il y a une baisse de la demande d'automobile, je comprends qu'on puisse faire des efforts pour amener l'offre un peu plus bas, pour faire survivre le tout. Mais là, la demande de banque n'a pas baissé. La réalité, c'est qu'elle se change. Et d'abord, pour la banque au quotidien, effectivement, les gens n'ont plus besoin de venir aux agences, ça c'est une évidence. Mais pour la banque de conseil, on peut aussi le faire au téléphone ou autrement. Mais ce qui se passe, c'est que les clients ont besoin et envie d'avoir un meilleur conseil encore qu'avant. Parce qu'ils peuvent plus se renseigner sur Internet, ils peuvent plus changer de banque aussi s'ils ne sont pas satisfaits. C'est à nous de monter le niveau d'exigence, le niveau de conseil, donc de former encore davantage. Je pense qu'il y a toute une possibilité pour cela et que si on le fait bien, on n'a pas besoin autant que cela de baisser le nombre de conseillers, ce que nous, on n'a pas fait du tout. On l'a même légèrement augmenté. Je ne dis pas que toutes les banques peuvent faire la même chose à la fois, mais il y a la place pour le faire. Et manifestement, pour l'instant, modestement, les dernières années, ça a très bien marché à contre-courant.
Le côté, justement, Prad, même si vous avez des agences internationales, mais enfin, vous êtes quand même très connu pour tout ce qui est l'Île-de-France, Paris, et d'avoir des banques régionales, c'est un atout aujourd'hui, non ?
Oui. Moi, je pense...
Avant, c'était un handicap presque. Vous étiez un peu l'exception qui confirme la règle. Maintenant, on peut voir que ça a un sens.
Ben, les groupes coopératifs ou mutualistes qui sont des compositions, des ensembles de banques régionales, à mon avis, ont retrouvé une modernité totale d'un point de vue de, sociétal. C'est-à-dire que les gens, il y a une attente pour de la proximité relationnelle. Il y a une attente pour que l'argent qu'ils déposent soit bien utilisé là où il est déposé pour financer l'immobilier, les entreprises, les commerçants à côté. Il y a une demande de proximité managériale. Les personnes qui travaillent dans les banques ont besoin d'avoir, d'être proches de la stratégie qui se fait et pas trop loin. Tout cela, en fait, retrouve une sorte d'entreprise plus partenariale, y compris avec les clients, qui sont, je le rappelle, dans nos banques, aussi les actionnaires, puisque ce sont les sociétaires.
Ouais,
ça retrouve une modernité d'existence qui est remarquable et qui, manifestement, réussit bien.
Progression du chiffre d'affaires de 5% à 1,25 milliard, le chiffre d'affaires revenu, hein, oui. Aussi hausse du bénéfice net.
Oui.
Où est-ce que vous gagnez votre argent ? Parce que là, avec ces taux bas, c'est sûr qu'on se demande tous où est-ce que vous gagnez votre argent.
C'est vrai. L'effet des taux d'intérêt stricto sensu est négatif sur notre marge nette d'intérêt et sur le chiffre d'affaires, on va dire. Mais on y arrive parce qu'on augmente le nombre de clients. Peut-être que le modèle qu'on propose est un modèle qui attire davantage. On augmente le nombre de clients. On équipe mieux aussi chaque client, travaille mieux avec chaque client, qui est plus satisfait de la relation avec nous. Ce qui fait qu'on arrive à compenser, à surcompenser l'effet des taux d'intérêt par une augmentation du nombre de clients, par l'augmentation des affaires qu'on fait avec chacun, entreprise comme particulier, comme commerçant, artisan, profession libérale.
Olivier Klein, en conclusion, 2020, ça se présente aussi bien ?
C'est le tout début, on va attendre.
Ah bah oui, mais enfin, vous pouvez, j'espère que quand même vous avez des anticipations sur ce que vous allez faire en 2020.
Il faudra compter quand même avec le coronavirus pour voir les effets réels sur l'économie réelle, parce que si jamais on a une baisse de la croissance inattendue, ça va jouer quand même. Et puis, le deuxième mauvais effet de cela, c'est que les banques centrales ont baissé à nouveau les taux d'intérêt aux États-Unis et que même si la BCE baisse ou baisse pas, les taux d'intérêt long terme à cause de cette crise ont rebaissé significativement, ce qui n'a rien de bon pour les banques.
Ouais, donc c'est un peu...
Incertain. Ça a bien commencé. Le début de l'année est bon pour la BRED, mais on est incertain pour l'avenir. On est prudent.
Et le premier semestre, il serait d'être un tout petit peu plus compliqué en tous les cas.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci
Olivier
beaucoup
Klein, donc directeur général. La BRED était notre invité dans un instant. C'est Alexandre Mars, c'est un peu un serial killer dans l'entreprise. Il publie Ose ou comment les conseiller à un entrepreneur, et surtout il investit aussi dans d'autres entreprises. Il nous dira comment ça fonctionne, mais pour l'instant on passe à l'actualité.
BFM Business midi, l'heure H, présenté par Edwige Chevrillon.
Tout le monde peut devenir entrepreneur, on verra. Peut-être pas les femmes, hein. Tiens, du reste, Alexandre Mars, bonjour.
Bonjour Edwige.
Merci d'être là, on vous retrouve dans un instant. Pour l'instant, on va les planex, toute l'info.
Le gouvernement français et la zone euro doivent se tenir prêts à intervenir sur le plan budgétaire pour soutenir les entreprises face au coronavirus. Déclaration de Bruno Le Maire ce matin. Le ministre de l'économie était l'invité d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. Il estime que le coronavirus enlèvera plus que 0,1 point à la croissance française. Et alors que la Fed a dégainé dès hier soir une baisse des taux, Bruno Le Maire juge que l'arme monétaire n'est pas la meilleure solution. Ce qu'il faut, selon lui, c'est que l'Eurogroupe mette au point une vraie riposte budgétaire. Bruno Le Maire.
La meilleure arme aujourd'hui, ce n'est pas la politique monétaire. Les taux sont déjà très bas, c'est vrai en particulier pour la Banque Centrale Européenne. Les taux d'intérêt sont négatifs. Donc les marges de manœuvre de la politique monétaire sont limitées. Je pense en revanche que la Banque Centrale Européenne, elle prendra ses décisions de manière indépendante. Elle a des instruments pour soutenir les entreprises, les PME, quand elles se financent auprès des banques. C'est plutôt ces instruments-là qui me paraissent utiles, plutôt que jouer sur les taux d'intérêt qui sont déjà très bas, voire négatifs. Puis l'autre instrument dont nous disposons, et je suis content qu'il figure dans le communiqué du G7, et j'espère qu'il figurera dans le communiqué des ministres des Finances de la zone euro dans quelques heures, c'est l'instrument budgétaire. Il faut que nous soyons prêts, si on voit qu'il y a besoin de dépenses budgétaires supplémentaires pour relancer la croissance, soutenir l'activité, il faut que nous soyons prêts à utiliser cet instrument budgétaire qui aujourd'hui me paraît plus efficace que l'instrument monétaire.
Bruno Le Maire, qui était l'invité d'Edwige Chevrillon et qui confirme par ailleurs que la position du gouvernement sur la 5G ne changera pas d'un iota malgré l'annonce de l'installation par Huawei d'une usine en France. Le ministre de l'économie avait déjà prévenu qu'il était favorable par principe à la préférence européenne dans le choix des équipementiers appelés à déployer les réseaux 5G. Réponse de l'équipementier chinois, Huawei construira une usine en France indépendamment de la décision du gouvernement français sur la 5G. Aux États-Unis, le Super Tuesday confirme le retour de Joe Biden dans la course à la candidature démocrate pour la présidentielle. L'ancien vice-président remporte les primaires de 9 États, mais Bernie Sanders s'adjuge la Californie. De son côté, Michael Bloomberg semble hors course. Il doit décider dans la journée de la suite à donner à sa candidature. Une opération majeure pour l'avenir de la Poste. La Banque Postale et CNP Assurance fusionnent. Le mariage sera officiellement scellé ce soir lors de plusieurs conseils d'administration et il va donner naissance au 11e groupe bancaire de la zone euro. Caroline Morin.
L'opération était devenue vitale pour la Poste. Cela faisait des années que son patron, Philippe Wahl, tentait en vain de mettre la main sur CNP Assurance. Mais ces dernières années, les difficultés de la Poste ont rendu l'opération urgente. L'entreprise publique était de plus en plus fragilisée par la chute de l'activité courrier, beaucoup plus forte que prévu, moins 7,8% encore l'an dernier. Dans ce contexte, l'État n'a pas hésité à organiser ce sauvetage entre les deux acteurs publics pour éviter d'avoir à renflouer la Poste, le tout sans que la Poste tenait à débourser 1 euro grâce à un mécano financier complexe avec la Caisse des dépôts et CNP Assurance. Au final, la Poste va récupérer un peu plus de 7 milliards d'euros de fonds propres et doubler la taille de la Banque Postale. Son bénéfice net va quasiment doubler à 1,4 milliard d'euros. Même chose pour son produit net bancaire. En clair, cette opération permet enfin à la Poste d'accélérer sa mue dans les services financiers. De quoi lever les doutes sur l'avenir du groupe.
C'est officiel, Covéa rachète le réassureur Partner Re pour 9 milliards de dollars. La maison mère de MAF, MMA et GMF est parvenue à un accord avec la famille Agnelli, actionnaire principal de Partner Re. Une levée de fonds importante dans la French Tech. Colony lève 30 millions d'euros. Cette start-up est spécialisée dans le co-living, l'habitat partagé. Par ailleurs, le fonds LBO France va apporter à Colony un financement de 150 millions pour lui permettre d'acquérir de nouveaux biens immobiliers. On termine avec un coup d'œil sur les marchés. Le CAC 40 est en nette hausse aujourd'hui, plus 1,36%, 5 466 points. L'euro-dollar se négocie 1,11 actuellement.
Merci beaucoup Aurélie. Dans un instant, c'est Alexandre Mars qui est notre invité. Restez surtout sur BFM Business et dans l'orage.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, vous le connaissez sur BFM Business, c'est Alexandre Mars. Alexandre Mars, merci d'être avec nous. Vous êtes à Paris, donc on en profite. Hein.
Merci de m'avoir invité.
Vous êtes un serial killer dans l'entreprise. Vous avez votre fonds qui s'appelle Bliss. Vous avez investi... hier, il y avait une boîte qui était là, justement.
MWM.
Voilà, absolument, qui est le leader dans le secteur de l'édition musicale. Vous avez investi, je crois, dans Deezer, dans Spotify, ce que vous me disiez.
Non, pas Deezer, mais Spotify. Donc, il fallait choisir entre les deux.
Deezer, c'est français. Donc,
mais c'est vrai qu'il y a aussi des entreprises qui ne sont pas françaises qui peuvent réussir, mais en effet, on a investi dans Spotify, Pinterest, Brut et quelques-unes autres.
Et puis surtout, vous avez créé, souvent vous êtes venu nous en parler, Epic, cette espèce de plateforme en fait, qui professionnalise le don humanitaire. Vous nous en direz peut-être un peu plus parce que je crois que ça a continué à marcher bien. Puis vous publiez Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Je me suis dit, tiens, c'est quoi un livre comme ça? Finalement, il y a pas mal de trucs. Et juste un petit clin d'œil par rapport à vous, c'est que vous dites qu'il faut bien choisir son nom. Et je ne peux pas dire que Blizz et Epic, ça fasse rêver pour créer son entreprise. Mais enfin, un commentaire, puisque vous êtes entre Paris et les États-Unis. Super Tuesday, comment vous interprétez ça? D'abord, l'échec, puisque vous habitez New York, l'échec de Michael Bloomberg. Ça, c'est quand même sidérant, non?
C'est sidérant. C'est sidérant quand on voit l'équipe qui l'a monté, puisque c'était des centaines et centaines de personnes, et surtout de data scientists, donc des gens qui ont passé au quotidien pour comprendre qu'est-ce que les gens aimaient, voulaient. Et ça, il l'a fait partout dans les États, puisqu'on sait qu'il n'a pas choisi tous les États. Et puis, il a dépensé une fortune, plus d'un demi-milliard de dollars. Et malgré ça, il a eu 12 délégués. C'est-à-dire que c'est vraiment un échec.
Une
catastrophe. Ouais. Et c'est vrai que je suis très étonné parce qu'il a pris une stratégie assez similaire à celle de Trump, qui avait fait de la même manière, avait été dans les États, avait vraiment utilisé la data, la donnée dont on parle beaucoup et dont vous parlez énormément au quotidien. Et ben, il a essayé de l'utiliser, il a mis des moyens et pourtant ça a été un échec. Ça peut prouver plein de choses, mais en tout cas, ça prouve certainement que le peuple américain n'est pas vraiment prêt aujourd'hui à
parce que les réseaux sociaux, Internet, c'est pas tout. Peut-être. Alors, c'est une question de génération, me disait Clément Perrault, qui connaît bien aussi les États-Unis. Il me disait, c'est une question de génération, forcément.
C'est une question de génération, mais quand on voit un Bernie Sanders qui a le même âge, enfin, ce qui est ainsi et très ans aussi, on l'a déjà beaucoup évoqué, le fait qu'aujourd'hui, les finalistes ont tous plus de 70 ans. Quand on parle de question de génération, c'est que...
Mais non, mais qui vote quoi, je me disais, parce qu'on
les jeunes, en effet, sont plutôt aujourd'hui, en tout cas, Bernie démocrates Sanders. Sur Bernie Sanders. Mmh. Et là aussi, c'est assez étonnant, parce que Joe Biden, donc, qui a eu hier... qui a quand même gagné le Super Tuesday. Là également, ce n'était pas forcément ce qui était attendu. Et là aussi, il est revenu dans la course à un tel point qu'aujourd'hui, il est dit que c'est certainement lui qui va affronter Donald Trump.
On verra. Intéressant. Parce qu'on regarde tous les
très étonnant pour Bloomberg. Très
étonnant. Donc, je me dis à New York, les gens doivent être un peu sidérés en disant qu'il y a l'échec. Quoi.
Mais il y a un succès, et c'est un sujet intéressant, parce que Edwige, ça prouve peut-être que l'argent... Ne fait pas tout.
Ça, ah bah,
oui, c'est incroyable. Hein.
Ça fait pas le bonheur. Vous savez pas, c'est ce qu'on dit.
Oui, bah ouais.
Enfin, on dit pas beaucoup ça aux États-Unis, mais enfin, en tous les cas. Alors, plus sérieusement, il y a un autre sujet. Le coronavirus. Alors, on peut se demander pourquoi ça vous interpelle. Et en même temps, vous me disiez, là, juste en vous asseyant, en me disant, moi, j'ai envie de piquer un coup de gueule, parce que je trouve qu'on est complètement en train de... Il y a une espèce de psychose collective.
On va mettre notre pays sur le toit. Et ça va être la même chose dans le monde. Il faut bien comprendre ce qui pouvait se passer il y a un mois de ça. Edwige, les gens n'avaient pas les chiffres.
Oui.
On pensait que les taux de mortalité, c'est ça qui intéresse les gens, étaient de 10-20%. Aujourd'hui, nous avons les chiffres. Il y a eu un peu moins de 100 000 personnes qui ont contracté le virus. 3 000 personnes sont mortes. C'est 0,3%, Edwige. La grippe saisonnière, vous le savez, c'est 0,1%.
Oui, mais là, c'est ça se contamine très vite et c'est la mort est assez rapide.
Mais c'est rapide, 14% des gens qui ont plus de 80 ans. Oui, certainement. Nos parents, il faut qu'on fasse attention. En effet, les gens qui ont plus de 70 ans sont à risque. Mais absolument pas à ceux qui ont moins de 50 ans. C'est 0%, 0% pour les moins de 20 ans, 0,1% pour les moins de 30 ans. Et je vous assure, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre compte que le taux de mortalité de cette grippe-là est plus faible que la grippe saisonnière. Donc, à un moment ou à un autre, on ne peut pas arrêter un pays. Parce que pourquoi le coup de gueule, Edwige ? Parce qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui vont devoir fermer leur entreprise. Il y a des artisans qui vont devoir fermer leur entreprise.
Oui, bien sûr, oui.
Parce qu'il y a une hystérie collective et on l'attrape l'année dernière, ou une année normalement, on a entre 2 et 6 millions de Français qui contractent la grippe. Il y a 15 000 morts chaque année. Aujourd'hui, on a eu 4 morts par la grippe coronavirus en France. Il y a un moment ou un autre, il faut qu'on fasse attention.
Oui.
Parce qu'à force de crier au loup, on ne croit plus à ça. Et aujourd'hui, moi, mon souci, c'est tous les entrepreneurs qui vont fermer. Ils vont fermer.
Alexandre Mars, vous publiez Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur, et donc chez Flammarion. Moi, j'ai une question, je ne sais pas si vous avez vu cette enquête qu'a fait le BCG, qui montre qu'il y a 5% des startups seulement qui sont fondées par une femme. Donc, vous appartenez à une économie dont vous êtes un des symboles, qui est vraiment alors plus misogyne, presque encore plus misogyne que le CAC 40, et c'est pas peu dire.
Je ne pense pas que ce soit plus misogyne que le CAC 40.
Ah si, il y a des statistiques.
Le CAC 40, maintenant, il n'y a plus de femmes, donc au moins, c'est plus simple, hein, c'est pas 5%. 5%, c'est 0%.
Mais pas dit qu'il y en a plein qui vont arriver.
Non, mais on espère tous. Mais moi, je pense que de toute façon, pour les faire venir, je pense qu'il va falloir qu'on installe des quotas, comme on a pu installer des quotas dans les conseils d'administration. Si on fait la même chose, ça sera la même chose pour les comités de direction. Mais en effet, c'est pas forcément là où vous avez le plus. Mais encore une fois, BCG, il faut voir de quelle entreprise il parle. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est qui est intéressant.
C'est 5000 entreprises non cotées qui brassent 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des PME, des start-up, des entreprises internationales.
Voilà. Mais voilà, mais c'est l'entrepreneuriat, c'est pas que ça, Edwige. Mmh. L'entrepreneuriat, c'est l'auto-entrepreneur, c'est le coach, c'est le freelance. Et là, on sort un peu de la start-up nation. Les chiffres,
ah, mais dès qu'il s'agit de coach, de communication et de RH, il y a beaucoup de femmes, là, je suis d'accord avec vous.
Non, enfin, bon, c'est les auto-entrepreneurs dont je parle ici. Mmh. L'auto-entrepreneuriat, c'est la différence avec la start-up nation dont on parle souvent et dont vous parlez très souvent sur cette antenne. On parle justement souvent des gens, bah, juste avant, on a parlé de Colonie qui a levé 30 puis 150 millions. L'entrepreneuriat, ce n'est pas que ça. Et encore une fois, l'entrepreneuriat, il y a 815 000 entreprises qui ont été créées l'année dernière, vous le savez, vous connaissez ces chiffres. Et ce n'est pas, du nouveau, que pour des gens qui vont créer...
Oui, mais quand vous regardez que les fonds, les fonds n'ont été financés que 5%. On est toujours les 5% du reste, quel que soit le côté par lequel on prend le problème. 5% des fonds ont été à des femmes seulement.
Oui.
Mais et là... que vous regardez, je crois qu'il y a plus de 70%, 75% des fonds d'investissement qui n'ont aucune femme
Dans l'équipe. Oui. Donc c'est pour ça que
chez vous, à Blis, vous avez des femmes.
C'est pour ça. Bien sûr qu'on a des femmes. Ce que vous dites est quand même assez terrible. Vous le savez aussi bien que moi. Nous, on a notre directrice financière, c'est une femme. Notre directrice des plateformes, c'est une femme. Donc vous me connaissez suffisamment depuis suffisamment longtemps pour savoir ce que je fais avec Epic. Et si je fais quelque chose d'un côté ou si je dis quelque chose, si je le mets pas en place, ça fonctionnera pas. Dans les entreprises que nous finançons, pour vous donner un exemple qui est très concret, dans les entreprises que nous ne finançons pas d'entreprises chez Bliss, donc le fonds d'investissement, s'ils n'acceptent pas qu'on mette en place une clause de diversité. La clause de diversité, c'est quand il y a quelqu'un qui doit être embauché dans le management, il doit forcément avoir quelqu'un qui est sous-représenté. C'est pas forcément une femme, ça peut être différente, et elle est différente selon les pays, pour être très franc. Mais nous, c'est une obligation. Les entrepreneurs acceptent à chaque fois ces clauses-là. On a des clauses, par exemple, où on cherche que nos entreprises que nous soutenons deviennent bicorp, en gros, qu'ils puissent mettre l'ESG au sein de leur système. Mais je peux vous assurer, quand vous essayez d'être bicorp, c'est sujet de parité, c'est sujet justement de différence de salaire est au centre. Évidemment que c'est pas suffisant. Vous avez entendu parler, vous en avez beaucoup parlé ici, la clause Sista. Donc en France, des femmes, pas que des femmes, nous on l'a signé évidemment.
D'autres, oui.
Mais Paris, donc il y a des choses qui sont à faire, on est très loin. Moi je milite pour les quotas, je pense que si en 2011 la loi Copy-Zeberman n'aurait pas été mise en place, on n'aurait pas aujourd'hui 40% de femmes qui sont dans les conseils d'administration. Je pense qu'il faut certainement aller plus loin et parfois forcer les choses. Le bouquin n'est pas que là-dessus, le bouquin il est quand même pour parler aux gens qui veulent se lancer, qui hésitent, femmes ou hommes, et qui ont envie de le faire, et ce bouquin-là répond à...
J'ai encore une question sur le fonds, après on arrivera au livre. Non, c'est sur votre fonds, vous êtes beaucoup, en fait, ce qui est assez rare dans les fonds d'investissement qu'on connaît nous ici en France, vous êtes plutôt dans le B2C que dans le B2B. Donc c'est vous ce qui vous intéresse, alors c'est peut-être parce que c'est votre nature, Alexandre, mais vous êtes plus dans la musique, beaucoup dans la musique, mais non, c'est dans le consommateur.
Ce qui m'intéresse, c'est monsieur et madame tout le monde, c'est moi. C'est vous Edwige. Mmh. Comment vous allez écouter, comment vous allez dormir, quelle va être votre vie demain? Alors, en effet, j'ai décidé de concentrer nos investissements dans les choses que je comprends. Et donc, les gens qui sont autour de moi dans l'équipe comprennent aussi très bien ces sujets-là. Mais vous avez parfaitement raison, nous ne faisons que le consommateur final.
Les investissements que vous faites, c'est à peu près de quel ordre?
En montant?
Oui.
C'est entre 10 et 20 millions.
Oui. Votre fonds uniquement, parce que dans votre fonds, il y a plein de vedettes, entre guillemets, de la start-up française, de l'écosystème français.
Donc, en fait, qui nous ont rejoints, justement, pour que quand nous soutenons un MWM ou un Brut ou un Headspace, en fait, globalement, il y ait de l'argent qui puisse venir pour comme ça, on puisse apporter plus que potentiellement de l'argent, aussi des introductions, des contacts et une réflexion assez poussée sur les sujets qui sont des sujets importants pour ces start-up.
Est-ce que vous avez l'impression juste que l'écosystème français est en train de devenir une vraie communauté, un peu, à part comme la Silicon Valley, mais enfin, en tous les cas, il y a une vraie communauté. Est-ce que vous avez ce sentiment-là que maintenant,
c'est parti. Et vous connaissez aussi ce sujet tellement bien, Edwige. ce que nous voyons, c'est que les entrepreneurs qui ont pu réussir par le passé ont décidé de réinvestir. Ça, c'est un sujet. Deux, la BPI. Soyons très clairs. La BPI, Nicolas Dufourcq et ses équipes sont exceptionnelles. Ce groupe était, parce qu'ils ont fait de la banque, c'est une banque publique d'investissement. Ils ont fait quelque chose d'une modernité incroyable. Et donc, ça permet justement de financer ces projets. Le seul petit caveat que je mets ici, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement la start-up nation. Surtout pas. Parce que si mais c'est important parce que il faut un peu démystifier ça. Même si vous n'avez pas levé, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas forcément d'être sur le Nasdaq, c'est pas forcément de lever 150 millions. L'objectif, c'est votre mission. C'est pourquoi vous le faites. Qu'est-ce qui va vous... Pour certains, c'est d'avoir une liberté. Certains, c'est d'avoir justement une certaine balance de vie.
Alors justement, vous commencez par un truc, c'est vrai qu'on s'est dit tout. Et moi, je deviendrai bien entrepreneur, mais j'ai pas d'idée. Mais vous dites, à la limite, ça sert même pas d'avoir le Eureka, n'existe pas. Il faut quand même avoir une idée, non?
Mais non,
c'est le premier chapitre. Il faut une idée.
Sur les 5 entreprises que j'ai montées, vous avez choisi certainement la seule où j'ai vraiment innové. La différence qu'on peut avoir, c'est entre les gens qui pensent être un entrepreneur et un inventeur. Les inventeurs sont très rares. On va parler d'Elon Musk, on va parler de quelques-uns, mais ils sont rarissimes. En revanche, de l'autre côté, vous n'avez pas besoin d'être un inventeur pour un entrepreneur. Mes entreprises, une grande partie de mes entreprises, c'est que j'ai trouvé un système, en tout cas quelque chose qui fonctionnait, et je l'ai fait à ma sauce, un peu mieux peut-être que d'autres, dans peut-être une niche parfois, et c'est ça qui a fonctionné. Donc surtout, et c'est ce que je dis aux gens qui viennent me voir en disant « Demain, je le fais, Alexandre ». Je dis « Mais tu le feras pas forcément parce que tu penses quelque chose qui n'y arrivera pas. Lance-toi, trouve un domaine, peut-être trouve une idée ailleurs, peut-être aux États-Unis, implémente-la mieux, différemment des autres. »
Et alors, c'est un peu ce que vous dites, c'est la qualité première des entrepreneurs de demain, je ne dirais jamais assez, c'est de se transformer en éponge, d'être dans le concret, dans l'horizontalité, je vais finir par réussir à le dire, et dans l'écoute. Ça veut dire, ce que dans votre livre, c'est presque ce que vous dites, c'est banal, mais en même temps, c'est un peu
Je ne sais pas si je dois prendre ça comme quelque chose de positif.
Non, au départ, on se dit, bon, bah, why not, pourquoi pas, c'est Alexandre Mars, donc très bien, va le recevoir. Et en fait, dans votre livre, il y a plein de... Ça démystifie beaucoup, voilà, c'est surtout
ça. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on entend, on pense... Et aujourd'hui, on dit, mais je suis allé voir 30 entrepreneurs, pas uniquement des grandes start-up. Quand on voit avoir un Eric Kaiser, des boulangeries Kaiser, c'est pas de la tech. Et pourtant, c'est succès. Et on est allé voir des gens dans la région, on leur dit, et toi, comment t'as fait? Comment t'as trouvé ton nom? Comment t'as parlé sur les noms? Est-ce que tu t'es associé? Et 21 questions qui sont extrêmement concrètes, pratiques. Parce que moi, ça, c'est le bouquin que j'aurais aimé avoir il y a 20 ans. Alors, comme tout entrepreneur, on doit se tromper un petit peu. Mais c'est quand même bien quand vous avez un copilote. Et pour moi, ce bouquin-là, c'est un peu comme quand vous lancez l'avion, il décolle et vous avez un copilote.
Un mode d'emploi.
Un mode d'emploi. Et c'est bien de checker tout ce qu'il faut faire. Et vous avez raison, ça vous paraît assez logique. Mais après, d'avoir lu, parce qu'au départ, vous ne vous posez pas forcément ces questions-là. Juste les poser, ça vous fait avancer.
Oui. Il y a aussi la capacité de prendre rapidement des décisions. Ça, c'est un point important, mais qu'elle soit, à la limite, il faut assumer qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Bah oui, je pense que c'est le procrastiner est certainement la pire des choses.
Oui.
Alors, vous pouvez procrastiner de quelques minutes, mais quand vous dites, bon, allez, et même chose, demain, après-demain, d'autres personnes, parce que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. Il y a d'autres gens qui, au même moment, vont faire à peu près la même chose. Donc, si vous n'êtes pas capable d'avancer, de prendre des décisions, parfois, qui vous l'avez dit, vont être mauvaises. Mais parfois, moi, je considère qu'il faut mieux avoir des mauvaises décisions que pas avoir du tout de décisions, parce que vous n'allez pas vous en sortir.
Mais Alexandre, quand vous recevez justement des gens qui ont une idée, un projet, au contraire, qui ont déjà lancé quelque chose, vous avez en face d'eux pour investir, je sais pas, des milliers ou des millions dans leur entreprise, qu'est-ce que vous regardez?
En fait, si vous
regardez,
il y a un chapitre entier sur justement comment séduire un investisseur, parce que c'est un point important. Alors déjà, la première question, Edwige, c'est quel type d'investisseur? Soit c'est l'argent qui est plutôt de la famille et des proches, soit c'est plutôt les business angels que vous connaissez très bien, soit c'est les fonds. Et selon ce que vous allez monter comme entreprise, vous n'allez pas forcément aller voir les mêmes personnes. Nous, par exemple, on est la troisième catégorie, les fonds. On a, et d'ailleurs je donne tous les éléments dans le livre, qui sont les 12 critères, qui sont nos critères. On va regarder la taille du marché, on va regarder la qualité de l'équipe, on va regarder absolument tout, la concurrence, mais aussi justement ce sujet qui est quel est l'impact, sur la société. Parce que nous faisons partie des gens qui pensons très clairement, et on en a très souvent parlé ensemble, que les entreprises qui vont gagner demain sont des entreprises qui auront mis au cœur de leur système,
qui vont impacter.
Bien sûr. Et c'est aujourd'hui, pendant des années, c'était après. À la fin de l'année, je vais donner quelque chose. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on le sait très bien, les employés ne sont plus là, ne veulent plus travailler pour ces entreprises-là, ne veulent plus rester dans ces entreprises-là. Les clients Et de nouveau, on en parle tellement souvent, mais il y a de plus en plus de ces entreprises, ces start-up, pas uniquement technologie, mais quand on parle de c'est qui le patron, quand on parle de Too Good To Go, ouais, on en parle de plus en plus, qui en fait arrivent à réussir parce qu'ils disent au cœur de mon système, Edwige, c'est un impact positif sur le système.
Nicolas Lemarchand, c'est qui le patron? Oui. Il est venu ici, là, à ce même micro. Bah, lui, il a commencé, il n'a aucun investisseur hein, derrière lui. C'est des clients qui sont devenus investisseurs. Je ne suis pas sûr que s'il avait fait une démarche d'aller vous voir, vous auriez dit, banco, on va y aller.
Nicolas Chaban, c'est une coopérative. Oui. Donc, leur modèle. Et vous avez raison. Qui, il y a 3 ans de ça, aurait pu imaginer?
Bah, personne n'aurait parié sur lui.
Bien sûr. Donc, de nouveau, son système à lui, c'était dit.
Parce qu'en plus, il ne correspond pas à tout point de vue, même physiquement, il correspond pas du tout
régionalement,
à vous.
Régionalement, oui. En diversité. Il vient de l'Aveyron. Mm. Mais évidemment, il n'a pas grandi à Paris. Vous avez parfaitement raison. Ouais. C'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, si moi je veux rester à Cahors...
C'est ça qui est moins génial dans l'écosystème de la French Tech où il y a une espèce... Voilà,
ouais. Edwige, vous me parlez de la French Tech. Mm. Vous me parlez de la Startup Nation.
Bah oui.
C'est pas que ça. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est ça qui est exceptionnel.
Ouais, mais on le réduit à ça.
Qu'on parle de ça ici à Paris, mais ouais, le freelance, les gens qu'on connaît, moi je connais des gens qui sont en Dordogne à Périgueux, et ils se considèrent, ils sont entrepreneurs. Et peut-être qu'ils sont artisans, peut-être qu'ils sont coachs, peut-être, mais ils sont entrepreneurs. L'entrepreneuriat, ça dépend, c'est la définition de ce que vous en avez. Parfois, certains, ça va être d'être le plus grand dans le monde. Pour certains d'autres, c'est dire, moi, c'est la balance de vie que je veux. Je veux pouvoir travailler, mais aussi pour m'occuper de mes enfants, mais aussi rester dans l'endroit où j'ai envie d'habiter. Et c'est ça qui est exceptionnel aujourd'hui. Et peut-être qu'on l'a un petit peu mis de côté dans les dernières années.
Complètement. Et aujourd'hui, nous aussi, hein, beaucoup. Ouais.
Mais bien sûr. Et aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'on est un peu comme le coronavirus. Ouais. On entend quelque chose,
one
on rentre dedans.
Minded, comme on dit.
Ouais. Exactement. Aujourd'hui, et c'est un peu l'idée du bouquin, c'est permettre, montrer que l'entrepreneur est protéiforme. Mmh. Elle est protéiforme. L'entrepreneur est protéiforme. Et c'est pas forcément, le succès qu'on avait, la vision qu'on avait du succès à l'époque, c'était forcément être le plus riche du village. Ben, c'est plus ça. Qu'est-ce que c'est agréable.
Dit un homme qui est devenu riche, hein, quand même.
Ben oui. Et moi, je suis, mais bien sûr, oui. Mais ça me pose aucun problème. Mmh. Et je l'assume. J'ai travaillé extrêmement fort pour arriver à avoir les moyens et pour pouvoir aujourd'hui faire. Ouais. Avoir les moyens de mes ambitions, passer ma vie à essayer de m'occuper de
oui, mais
de
par
ceux
exemple,
qui ont plus
dans le fond, pardon, je suis un peu de provocation, mais c'est comme ça qu'on va émerger. Ce qui est intéressant, c'est dans votre fonds Bliss, j'imagine que vous n'allez pas investir dans ces qui le patron. Vous êtes dans des boîtes d'entertainment hyper branchées, voilà, Spotify, MMW, voilà.
Mais non, en fait, pour répondre à votre question, non, on va regarder absolument tout. C'est qui le patron? Pour très bien connaître Nicolas Chaban, c'est une coopérative. Donc, même si je voudrais investir, c'est impossible parce que justement, c'est en fait les gens qui détiennent, qui débarquent, c'est en fait les gens de la coopérative, ce qui est un modèle exceptionnel puisque globalement, derrière, ils seront jamais rachetés, ils peuvent pas justement utiliser les profits pour autre chose que les réinvestir. Donc, c'est des modèles qui sont purs.
Intéressant quand même, Alexandre, de voir que ce que vous dites, c'est-à-dire que il faut arrêter de dire que tout doit être tech, French tech, écosystème. Station F, machin, etc. Il faut vraiment que chacun puisse, quel que soit l'endroit où il est, avoir une expérience, oser une entreprise d'entrepreneur. Et ça, c'est important.
Regardez-vous, Edwige, vous êtes ici sur BFM et BFM Business. Vous n'êtes pas en train de faire de vendre la lessive sur des chaînes commerciales.
Non.
Mais parce que vous avez décidé, parce que c'est votre capacité, parce que c'est vos compétences, et c'est pour ça que les gens vous regardent. Et ben, c'est la même chose. L'entrepreneuriat, si on pousse tous à se dire, il faut lever des centaines de millions, on fera des gens déçus. Et c'est pas ça l'intérêt. Ouais. L'intérêt de l'entrepreneuriat, je peux vous en assurer pour en recevoir. Et ben, quotidiennement, j'ai quotidiennement des gens qui créent, dans le bouquin, il y a des exemples, qui disent, ben, moi, je suis très content, je suis à Lyon, ouais, je crée ma petite entreprise.
Le réseau est important, vous dites-vous, voilà, parce
toujours.
Que. Toujours.
Mais les réseaux.
Quel que soit le réseau, hein.
Mais oui. Quel que soit le réseau, et tout le monde a son réseau, à son niveau. Et puis, son réseau aussi, il faut être prêt toujours à avoir un réseau qui soit, si vous demandez toujours quelque chose à quelqu'un et si vous n'êtes pas prêt à donner en retour, ça marche pas. En tout cas, ça marche pas sur le long terme.
Merci Alexandre.
Merci,
quand est-ce que vous revenez complètement à voir en France?
Ça y est,
complètement.
Ah oui, d'accord. Je suis très heureux.
Et comme quoi, vous voyez, ça marche. Merci beaucoup, Alexandre Mars. Ose. Tout le monde peut devenir entrepreneur et donc c'est chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de l'RH. Bien sûr, on se retrouve demain, 8h15. Je recevrai Valérie Rabault de Parti Socialiste, qui est le chef du parti à l'Assemblée nationale, avec tout ce qui se passe. On parlera des retraites, du 49-3. Et puis, on se retrouve, bien sûr, dans l'RH 12h-13h. J'aurai notamment Julien Normandie, le ministre du Logement, qui viendra nous donner des chiffres, sur la tech. Ça sera intéressant de voir comment la France s'équipe. À demain, bonne journée.